Bonjour Jacques Weber, vous êtes à l'affiche de Gustave au Théâtre de l'Atelier, un presque seul en scène qui présente Flaubert tel qu'on ne l'avait jamais vu. Vous campez là un personnage haut en couleur qui nous emmène dans l'intimité de ce grand homme. Un spectacle qui repose sur la correspondance de Flaubert, où vous excellez à travers la truculence du verbe, un verbe dont l'auteur se nourrit et qui nourrit le propos de la pièce. Alors comment est né ce projet ?
Ben, très simplement, un jeune auteur que j'encourageais à écrire, qui était tout nouveau, qui était d'abord un acteur, qui était Arnaud Bédoué, un jour vient me voir et me dit « Connais-tu la correspondance de Flaubert ? Tu dois jouer ça absolument. » Et je dis, comme beaucoup de gens à l'époque d'ailleurs, « Ben non, je ne connais pas bien. Ben bon, non, non, ça n'était pas encore paru ou ça venait de paraître à la Pléiade. » Et je dis, ben non, je connais très bien ses romans, mais pas du tout sa correspondance. Il me dit, mais ça n'a rien à voir. Là, il est en liberté, il est complètement fou, ça explose de partout. Il me dit, il faut que tu lises ça. Mais il me dit, mais je te prépare des larges extraits, tu vas voir. Et je lis ça, je tombe par terre, donc je me rue dans la Pléiade. Et bref, il me dit, écoute, moi, je peux te faire une pièce de ça. Ah, je dis, mais ça, c'est formidable, parce que moi, je n'aime pas tellement les soirées commémoratives, laudatives, comme ça, et puis soirées littéraires ou poétiques. Enfin, bon, il y a parfois, c'est très bien, mais enfin, bon, moi, j'avais envie vraiment de le jouer. Et donc, c'est très important de dire qu'il ne s'agit pas d'un soliloque, d'un one-man show, d'un spectacle seul, non. Il s'agit réellement d'une pièce. Un homme vient d'être, Flaubert, on vient de lui annoncer, sa maîtresse vient de lui annoncer qu'elle voulait le quitter. Il arrive dans la remise, qui est dans son jardin, c'est d'ailleurs ça pouvait exister, ça existait, il avait un jardin à Croisset, et il y a son jardinier qui est là, qui dort là, et il se confie à lui. Et comme ça peut arriver à nous tous, on aime bien se confier à une personne plutôt éloignée de soi, vous savez ce qu'on appelle le syndrome du chauffeur de taxi, quoi. Et d'un seul coup, il balance tout. Alors il balance son incompréhension et sa mauvaise foi totale quant au fait qu'il est quitté, mais tout se mélange avec cette difficulté terrible qu'il a d'écrire, cette sorte de désespoir à ne pas atteindre la perfection qu'il voudrait tant. Bref, on est au cœur même de la locomotive, de la centrale nucléaire qui est un auteur de cette dimension, quoi. On est au cœur même de la création, du processus de la création. Avec la vie qui traverse, avec les angoisses de création qui traverse.
Donc la présence de Philippe Dupont était vraiment nécessaire, en fait.
Oui, je crois que c'est très important, parce que si vous voulez, sinon on aurait affaire à « Mesdames, messieurs, je vous fais un grand numéro, je vous parle en direct, écoutez comme c'est actuel, comme c'est profond, comme c'est sensible ». Là, on est tout le temps, constamment, sur le regard d'autrui, et on est vraiment dans du théâtre, quoi. Et pour moi, en plus, Philippe a une espèce de présence muette tout à fait formidable, avec lequel c'est très agréable de jouer. Pierre, comme par hasard, c'est mon compagnon de chemin depuis mes 25 ans. Il m'accompagne dans les tournées, il me conduit, il me fait mes lumières, il me fait ma régie. Enfin, donc, c'est très marrant.
Il n'y a rien de plus présent qu'une présence muette.
Ah ben oui, c'est très important. Et c'est très drôle parce que la convention théâtrale fait que je le regarde assez peu. C'est en regardant le public que je le fais encore plus exister.
Qu'est-ce qui vous a fasciné chez Flaubert ?
Oh, bah, d'abord l'extraordinaire acuité, comme tous les grands auteurs sont des gens qui sont des entomologistes de leur époque, quoi. Il le voit ce que d'autres ont cru voir, il le hume des fumées inconnues, comme il dit, comme il le dit si bien, Flaubert. Et tout ça avec. Bon, parce que c'est bien beau de découvrir des choses, mais comme dirait Céline, on ne découvre plus rien, tout a été dit, et comme le dit Flaubert, tout a été déjà dit et bien dit. Donc au bout d'un moment, ce qui compte, c'est la forme des choses, c'est la façon dont l'organe accompagne la pensée. C'est la façon dont la pensée est portée. Et donc on arrive sur le problème du style. Et là, le style de Flaubert, qui n'a rien à voir avec le style de ses romans, c'est une langue qui est là totalement en liberté, qui n'est pas travaillée, qui est
explosive, bourrasque, insolente, cochonne, paillarde, viandarde. Enfin, c'est quelque chose d'inouï, quoi. On croit rêver quant à la liberté qu'il a. D'ailleurs, vous savez qu'elle n'est pas appréciée unanimement. Par exemple, un Proust a écrit un essai sur Flaubert où il dit, je suis très bien placé pour le dire, puisque je considère en effet que c'est un des très grands moments dans l'histoire de la littérature, mais mon Dieu, quelle horreur que ces correspondances, qui n'ont rien à voir avec son génie, c'est incompréhensible et tout. Enfin,
c'est incroyable. Et c'est d'autant plus incroyable que, en fait, c'est un véritable paradoxe, parce que Flaubert a cultivé dans l'opinion publique une image un peu austère, et c'est un homme truculent, quoi. On le voit à travers son verbe.
Oui, parce que quand il dit à la fin de la pièce « j'entre en littérature », c'est vrai. À un moment donné, il a convoqué ses meilleurs amis pour leur lire, je crois, la énième version de La Tentation de Saint-Antoine, si mes mémoires sont bonnes. Et ses amis lui ont dit, mais il y a trop d'adjectifs, c'est trop lourd, c'est trop... Hein. Donc il en a eu marre. Il a dit, je m'enferme et cette fois-ci, je vais faire un livre. Et de là est venue la légende de l'ermite de Croisset. Avec ses fiches, avec cette espèce de souci terrible de l'hyper-réalisme. Il est évident que si Flaubert avait eu un ordinateur, Lévi-Strauss d'ailleurs, ou d'autres, bien évidemment, il n'y aurait pas eu ces milliers et milliers d'heures et ces cent milliers de fichiers, ou alors ils auraient écrit encore plus, parce qu'ils auraient... ce goût du détail forcené, ils l'auraient eu là, à côté d'eux.
À travers ce personnage, quelles sont les idées avant-gardistes qui vous tiennent à cœur dans ce spectacle ?
Mais, si vous voulez...
Parce qu'il y a... Il exalte la liberté.
Oui, mais c'est pas tellement... D'abord, ces colères ne sont pas avant-gardistes. Je pense qu'elles sont surtout tellement ancrées dans le grand mouvement... historique du 19e, que c'est tellement très exactement le ressenti de son époque que forcément on touche à l'intemporalité, donc à notre époque. Mais c'est formidable que ce plaidoyer contre finalement l'ignorance, l'abrutissement, l'imbécilité, l'apparence, le bouvard et pécuchétisme, quoi, l'idiotie de Bovary, l'aveuglement, la barbarie de l'ignorance, tout ça sont des thèmes qui sont on ne peut plus actuels, on ne peut plus prégnants. Quand il dit quand on veut prouver Dieu, la bêtise commence, quel orgueil que celui d'un dogme quelconque. Si la société continue comme elle va, nous reverrons, je crois, les mystiques, comme il y en a eu à toutes les époques. On est là dans une espèce d'intemporalité fâcheuse. Alors, il n'y a pas d'avant-gardisme. Je crois même que c'était un homme qui avait eu cette phrase merveilleuse lorsqu'il voulait, contre vents et marées, mais vraiment contre tout le monde, parce que Louis Bouilhet n'était pas un homme suffisamment important, mais pour lui, c'était son ami, c'était un grand bonhomme. Et il voulait qu'on lui fasse une statue. Alors, il avait fait un grand discours auprès des municipaux. Il avait dit, messieurs les conservateurs qui savaient si mal conserver, c'est magnifique. Mais donc il avait, surtout, il y avait une espèce de lucidité, d'intelligence énorme, considérable d'ailleurs. Mais je crois, vous savez, qu'il était, c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est un personnage qui est, dans sa vie, moins engagé que Victor Hugo, par exemple. Victor Hugo va à la tribune, a une vie politique, etc. Bon, lui, pas du tout. Mais par contre, dans sa... C'est une pensée libre, sauvage, quoi, qui s'exprime dans sa correspondance. Il le dit d'ailleurs, il dit « je suis un bourgeois », et ça me touche beaucoup. Il y a là-dedans une honnêteté que j'ai repris moi, alors à mon humble niveau, dans un bouquin d'interview qu'on m'a fait autour de moi, « J'aurais aimé être un rebelle », et j'essayais de mettre en place avec ce « j'aurais aimé être un rebelle », ce qui sous-entend que je n'en suis pas un, c'est « je suis un bourgeois qui vit ». À la campagne, j'habite à Suresnes. Lui, il dit, je suis un bourgeois qui vit à la campagne, à Croisset, qui s'occupe de littérature, voilà, c'est tout. Il dit, moi, je suis un bourgeois qui vit à Suresnes et qui s'occupe de théâtre, voilà, c'est tout. Et si mon œuvre est grande, elle aura son écho pendant mois, après mois, qu'importe. Mais me reprocher de vivre une vie neutralisante, c'est comme de reprocher à un cordonnier de faire des bottes. Donc il y a là une espèce de d'humilité fierotte, comme ça, fier, que je trouve formidable et que j'admire. Il s'agit bien d'artisanat pour lui. L'artiste, on verra plus tard. Voilà, et ça j'aime beaucoup. Ouais. Ça j'aime beaucoup, cette revendication de la main dans le pâté, quoi. De la main dans
une espèce de, oui, d'humilité, de voilà, modestie.
Oui, la vraie, la grande. Et
qui le grandit.
Voilà, et moi je crois, et mes ennemis ou mes amis me disent souvent ça, la grande humilité est à deux doigts du plus grand orgueil.
Oui, je pense
ça,
aussi.
Je trouve que c'est, ça me plaît bien.
Oui, je pense aussi. Voilà. Et alors, les difficultés ou les écueils de ce genre de pièces?
Oh, je crois sans aucun, qu'une espèce d'hésitation, ça serait le cabotinage. Voilà. Le cabotinage, c'est très dangereux. Il faut faire très attention. Il ne faut pas aussi, se complaire. Vous savez, c'est comme dans le mélodrame, si vous complaisez dans la mélodie du drame, bah, ça devient de la soupe.
Ouais.
Si là, vous complaisez dans l'épaisseur, la gourmandise, la truculence, ça devient un peu indigeste. Il y a trop de sauce, quoi. Donc, il faut faire attention à trouver l'élégance de tout ça, la fluidité de tout ça.
Vous avez une carrière théâtrale phénoménale, du classique au contemporain. Quel genre a votre prédilection ?
Vous savez, c'est une bonne question parce que je vais la contourner. Non, mais j'ai envie de dire que moi, il n'y a pas de genre privilégié. Si on regarde ma carrière, il est évident qu'il y a une propension à aller plutôt vers le classique, ça c'est sûr. Et que j'ai une propension à rappeler toujours que pour que l'arbre bourgeonne, il lui faut des racines. Je ne peux pas le nier, plutôt, et par mon âge et par goût, plutôt du côté des racines que du côté des bourgeons, ce qui est peut-être aussi un défaut. Mais ce qui compte surtout pour moi, ce que je prive, c'est d'abord les rencontres avec les gens avec qui je travaille. Et plus je vieillis, plus j'ai envie d'abord que ça se passe dans ce que je préfère au monde, c'est la fraternité, la bonté ou la gentillesse. Les grosses têtes et les emmerdeurs, aussi géniaux soient-ils, et encore c'est rare, j'ai rarement vu un génie et un emmerdeur, alors que les cons sont souvent, ça me fatigue. Voilà. Vous savez, comme disait l'autre, ce qui compte, ce n'est pas tellement le but, c'est le mouvement vers le but. Et lui le dit, le succès n'est pas un résultat. Le succès, c'est pas un but, c'est un résultat, pas un but. Voilà. Et ça, c'est formidable. Et moi, je veux que le chemin vers la finalité, qui est la représentation, et qu'en plus, qui n'est pas une finalité, ça, la représentation change tous les jours, soit agréable, quoi, enfin, soit humain.
Oui. Vous êtes metteur en scène et comédien. Arrivez-vous à faire abstraction du metteur en scène quand vous êtes comédien ?
Oui, mais d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Je crois qu'on est tous comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je sais que si j'accorde ma confiance, et puis j'aime bien que les rôles soient établis comme ça, je suis tranquille et il est tranquille, ou elle est tranquille.
Ouais.
Moi, si je perds confiance, ça, c'est un petit peu embêtant. Ça m'est déjà arrivé. D'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de capitaine à bord. Au lieu de gueuler, je suis plutôt « je m'en foutiste ». Et ça, c'est un gros défaut.
Ouais.
Je laisse tomber, ça m'embête. Et là, ça, c'est... Mais c'était une autre époque. C'était une époque où je buvais beaucoup. Là, j'ai vraiment changé. Je pense que si un abruti m'ennuie et que je me rends compte, je m'en vais. Ouais. J'ai plus de problème. Par contre, si je donne ma confiance, elle est absolue. Ça m'est arrivé dernièrement avec Jean-Louis Martinelli dans la mare. Ça, bien évidemment, avec ma femme. Mais c'était pas gagné, c'était pas automatique. Mais elle me connaît si bien et elle est si, comment dirais-je, calme, patiente et juste que voilà, que je déteste le rapport de force, je n'aime que le travail dans l'empathie. Ça ne veut pas dire pour ça que je condamne l'autre façon de travailler. Il y a des gens qui sont très violents et qui obtiennent des résultats magnifiques. Mais moi, j'ai passé l'âge.
Oui, je pense.
Étant dit, je dis ça, puis en même temps, j'ai travaillé, mais c'était un homme tellement... Ça se sentait tout de suite que c'était un être humain extraordinaire, mais très exigeant, très allemand. Peter Stein, qui est un génie, un immense metteur en scène. Enfin, c'est un des plus grands. C'est même peut-être le metteur en scène phare avec Jojo Strehler du XXe siècle. Ben, je peux vous dire que c'est dur. Mais c'est dur, mais bon, ben voilà. Mais il y a de la bonté derrière, il y a de l'humanité.
Quels sont les rôles au théâtre qui vous ont le plus marqué ?
sûr que physiquement et dans le retentissement que ça a eu, il y a eu Cyrano, évidemment. Mais bah, j'ai eu la chance, vous savez, de jouer près de 300, 400 fois parfois Tartuffe, Don Juan, Alceste, Arnolphe, Monte Cristo à la scène et à l'écran, Galilée. Bref, bon, et là, je n'ai pas encore joué Tchekhov, ça me rend bien triste.
Ben justement, c'était ma question suivante. Ouais. Et sur les regrets.
J'espère un jour très vite, parce que le temps presse. J'aimerais bien m'attaquer à un autre grand Shakespeare. Moi, j'ai fait Petruccio, une fois ou deux Shakespeare, mais pas grand-chose. J'aimerais bien sûr attaquer le Roi Lear. Hein, j'approche l'âge qu'il faut. Et je trouve que c'est le rôle consécration. C'est le rôle. Ouais. Et puis, j'adorerais, parce que. D'abord, c'est bizarre, tout le monde me parle de Tchekhov pour moi. Et puis c'est vrai que...
Et lequel alors?
Vania, c'est sublime.
Oui, Oncle Vania.
Vania.
Formidable.
Mais il y en a tellement. Ça, c'est une pure merveille.
Écoutez, alors, la dernière question, vos projets.
Alors, il y en a... D'abord, il y a continuer jusqu'au 23 août le Flaubert. Après, je me repose enfin, parce que je ne me suis pas reposé depuis à peu près 3-4 ans. Donc, ça a fait beaucoup. Ouais. Et là, je vais me reposer dans la montagne. Et je pense que je vais écrire mon deuxième roman, enfin, commencer à le mettre en place. Juste après, j'enchaîne et je joue l'Avare. Dans la mise en scène de Jean-Louis Martinelli, que nous avons joué en tournée, qui était un énorme succès. Alors vraiment, j'étais même étonné, quoi. Et qu'on va reprendre au théâtre de Jazet. Et puis après, j'enchaîne tout de suite, je répète, je retrouve un de mes grands maîtres, Peter Steink, pour faire la dernière bande de Samuel Beckett au théâtre de l'œuvre pour une série de représentations
exceptionnelles.
Limitées, voilà. Ouais. Et après, il y a plein de projets dont je ne vais pas encore parler, mais enfin, il y en a des beaux.
Je reviendrai.
Voilà.
Merci beaucoup.